Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Au fil de nos lectures en liberté habituelles, nous revenons donc aux aventures de Pardamu, le héros du roman de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Et nous retrouvons Pardamu, pris dans la guerre de 14. Depuis 4 semaines qu'elle durait, la guerre, on était devenu si fatigué, si malheureux, que j'en avais perdu à force de fatigue un peu de ma peur en route. La torture d'être tracassé nuit et jour par ces gens, les gradés, les petits surtout, plus abrutis, plus mesquin et plus haineux encore que d'habitude, ça finit par faire hésiter les plus entêtés à vivre encore. Ah, l'envie de s'en aller, pour dormir d'abord. Et s'il n'y a plus vraiment moyen de partir pour dormir, alors l'envie de vivre s'en va toute seule. Tant qu'on y resterait en vie, il faudrait avoir l'air de chercher le régiment. Pour que dans le cerveau d'un couillon la pensée fasse un tour, il faut qu'il lui arrive beaucoup de choses, et des bien cruelles. Celui qui m'avait fait penser pour la première fois de ma vie, vraiment penser, des idées pratiques et bien à moi, c'était bien sûrement le commandant Pinson, cette gueule de torture. Je pensais donc à lui aussi fortement que je pouvais, tout en brinque-ballant, garni, croulant sous les armures, accessoires figurant dans cette incroyable affaire internationale où je m'étais embarqué d'enthousiasme. Je l'avoue. Chaque mètre d'ombre devant nous était une promesse nouvelle d'en finir et de crever. Mais de quelle façon ? Il n'y avait guère d'imprévu dans cette histoire que l'uniforme de l'exécutant. Serait-ce un d'ici ou bien un d'en face? Je ne lui avais rien fait, moi, à ce Pinson. À lui, pas plus d'ailleurs qu'aux Allemands. Avec sa tête de pêche pourrie, ses 4 galons qui lui scintillaient partout de sa tête en nombril, ses moustaches rêches et ses genoux aigus, et ses jumelles qui lui pendaient au cou comme une cloche de vache, et sa carte au 1 000ème donc, je me demandais quelle rage d'envoyer crever les autres le possédait, celui-là. Les autres qui n'avaient pas de carte. Nous 4, cavaliers sur la route, nous faisions autant de bruit qu'un demi-régiment. On devait nous entendre venir à 4 heures de là, ou bien c'est qu'on ne voulait pas nous entendre. Cela demeurait possible. Peut-être qu'ils avaient peur de nous, les Allemands, qui sait. 1 mois de sommeil sur chaque paupière. Voilà ce que nous portions, et autant derrière la tête, en plus de ces kilos de ferraille. Ils s'exprimaient mal, mes cavaliers d'escorte. Ils parlaient à peine, pour tout dire. C'étaient des garçons venus du fond de la Bretagne pour le service, et tout ce qu'ils savaient ne venait pas de l'école, mais du régiment. Ce soir-là, j'avais essayé de m'entretenir un peu du village de Barbagny avec celui qui était à côté de moi, et qui s'appelait Kersuzon. « Dis donc, Kersuzon, que je lui dis. » « C'est les Ardennes ici, tu sais. Tu ne vois rien, toi, loin devant nous ? Moi, je vois rien du tout. »« Ben, c'est tout noir comme un cul, » qui m'a répondu Kersuzon. Ça suffisait. Dis donc, t'as pas entendu parler de Barbani, toi, dans la journée ? Par où que c'était ? Que je lui ai demandé encore. Non ? Et voilà. On ne l'avait jamais trouvé, le Barbani. On a tourné sur nous-mêmes seulement jusqu'au matin, jusqu'à un autre village où nous attendait l'homme aux jumelles. Son général prenait le petit café sous la tonnelle devant la maison du maire quand nous arrivâmes. Ah, comme c'est beau la jeunesse, Pinson, qui lui a fait remarquer très haut à son chef d'état-major en nous voyant passer, le vieux. Ceci dit, il se leva et partit faire un pipi, et puis encore un tour, les mains derrière le dos, voûté. Il était très fatigué ce matin-là, m'a soufflé l'ordonnance. Il avait mal dormi, le général, quelque chose qui le tracassait dans la vessie qu'on racontait. Kersuzon me répondait toujours pareil quand je le questionnais la nuit, ça finissait par me distraire comme un tic. Il m'a répété ça encore deux ou trois fois à propos du noir et du cul. Et puis il est mort. Tué qu'il a été, quelque temps plus tard en sortant d'un village. Je m'en souviens bien. Un village qu'on avait pris pour un autre, par des Français qui nous avaient pris pour des autres. C'est même quelques jours après la mort de Kersuzon qu'on a réfléchi, qu'on a trouvé un petit moyen dont on était bien content pour ne plus se perdre dans la nuit. Donc on nous foutait à la porte du cantonnement. Bon, alors on disait plus rien. On ne rouspétait plus. « Allez-vous-en !» qu'il faisait, comme d'habitude, la gueule en cire. « Bien, mon commandant !» Et nous voilà dès lors partis du côté du canon et sans se faire prier tous les cinq. On aurait dit qu'on allait aux cerises. C'était bien vallonné de ce côté-là, c'était la Meuse, avec ses collines, avec ses vignes dessus, du raisin pas encore mûr et l'automne, et des villages en bois bien séchés par 3 mois d'été donc, qui brûlaient facilement. On avait remarqué ça nous autres une nuit qu'on savait plus du tout où aller. Un village brûlait toujours du côté du canon. On n'en approchait pas beaucoup, pas de trop. On le regardait seulement d'assez loin, le village, en spectateur, pourrait-on dire, à 10-12 kilomètres, par exemple. Et tous les soirs ensuite, vers cette époque-là, bien des villages se sont mis à flamber à l'horizon. Ça se répétait. On en était entouré comme par un très grand cercle d'une drôle de fête de tous ces pays-là qui brûlaient devant soi et des deux côtés avec des flammes qui montaient et léchaient les nuages. On voyait tout y passer dans les flammes, les églises, les granges, les unes après les autres, les meules qui donnaient des flammes plus animées, plus hautes que le reste, et puis les poutres qui se redressaient tout droites dans la nuit avec des barbes de flamèches avant de chuter dans la lumière. Ça se remarque bien comment que ça brûle un village, même à 20 kilomètres. C'était gai. Un petit hameau de rien du tout, qu'on n'apercevait même pas pendant la journée, au fond d'une moche petite campagne, eh bien, on n'a pas idée la nuit, quand il brûle, de l'effet qu'il peut faire. On dirait Notre-Dame. Ça dure bien toute une nuit à brûler un village, même un petit. À la fin, on dirait une fleur énorme, puis rien qu'un bouton, puis plus rien. Ça fume. Et alors, c'est le matin. Les chevaux qu'on laissait tout scellés dans les champs à côté de nous ne bougeaient pas. Nous, on allait roupiller dans l'herbe, sauf un qui prenait la garde, à son tour, forcément. Mais quand on a des feux à regarder, la nuit passe bien mieux. C'est plus rien à endurer, c'est plus de la solitude. Malheureux qu'ils n'ont pas duré, les villages. Au bout d'un mois, dans ce canton-là, il n'y en avait déjà plus. Les forêts, on a tiré dessus aussi, au canon. Elles n'ont pas existé 8 jours, les forêts. Ça fait encore de beaux feux, les forêts, mais ça dure à peine. Après ce temps-là, les convois d'artillerie prirent toutes les routes dans un sens et les civils qui se sauvaient dans l'autre. Mais en somme, nous, on ne pouvait plus ni aller ni revenir. Fallait rester où on était. On faisait la queue pour aller crever. Le général même ne trouvait plus de campement sans soldats. Nous finîmes par coucher tous en plein champ, général ou pas. Ceux qui avaient encore un peu de cœur l'ont perdu. Et c'est à partir de ce mois-là qu'on a commencé à fusiller des troupiers pour leur remonter le moral par escouade. Et que le gendarme s'est mis à être cité à l'ordre du jour pour la manière dont il faisait sa petite guerre à lui, la profonde, la vraie de vraie. Après un repos, on est remonté à cheval quelques semaines plus tard et on est reparti vers le nord. Le froid, lui aussi, vint avec nous. Le canon ne nous quittait plus. Cependant, on ne se rencontrait guère avec les Allemands que par hasard, tantôt un hussard ou un groupe de tirailleurs par-ci, par-là, en jaune et vert, des jolies couleurs. On semblait les chercher, mais on s'en allait plus loin dès qu'on les apercevait. À chaque rencontre, deux ou trois cavaliers y restaient, tantôt à eux, tantôt à nous. Et leurs chevaux libérés, étriers fous et clinquants, galopaient à vide et dévalaient vers nous de très loin avec leurs selles à trousquins bizarres et leurs cuirs frais comme ceux des portefeuilles du jour de l'an. C'est nos chevaux qu'ils venaient rejoindre. Amis tout de suite, bien de la chance. C'est pas nous qu'on aurait pu en faire autant. Un matin, en rentrant de reconnaissance, le lieutenant de Saint-Engeance invitait les autres officiers à constater qu'il ne leur racontait pas de blagues. « J'en ai sabré deux !» assurait-il à la ronde, et montrait en même temps son sabre où, c'était vrai, le sang caillé comblait la petite rainure faite exprès pour ça. « Ah, il a été épatant ! Bravo, Saint-Engeance ! Si vous l'aviez vu, messieurs, quel assaut !» l'appuyait le capitaine Ortolan. C'était dans l'escadron d'Ortolan que ça venait de se passer. « Je n'ai rien perdu de l'affaire, je n'en étais pas loin. Un coup de pointe au cou, en avant et à droite. Toc, le premier tombe. Un autre pointe en pleine poitrine, à gauche, traversé, une véritable parade de concours, messieurs. Encore bravo, Saint-Engeance. Deux lanciers, à 1 kilomètre d'ici. Les deux gaillards y sont encore, en plein labour. La guerre est finie pour eux, hein, Saint-Engeance. Quel coup double. Ils ont dû se vider comme des lapins. » Le lieutenant de Saint-Engeance, dont le cheval avait longuement galopé, accueillait les hommages et compliments des camarades avec modestie. À présent qu'Ortolan s'était porté garant de l'exploit, il était rassuré et il prenait du large. Il ramenait sa jument au sec et la faisait tourner lentement, en cercle, autour de l'escadron, comme s'il se fût agi des suites d'une épreuve de haie. Nous devrions envoyer là-bas tout de suite une autre reconnaissance, et du même côté, tout de suite, s'affairait le capitaine Ortolan décidément excité. Ces deux bougres ont dû venir se perdre par ici, mais il doit y en avoir encore d'autres derrière. Tenez, vous, brigadier, Bardamu, allez-y donc, avec vos quatre hommes. C'est à moi qu'il s'adressait, le capitaine. Et quand ils vous tireront dessus, eh bien, tâchez de les repérer, et venez me dire tout de suite où ils sont. Ce doit être des brandebourgeois.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aux civilos. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puretins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Toujours avec Bardamu, après cette petite pause musicale et appropriée. Ceux de l'active racontaient qu'au quartier, en temps de paix, il n'apparaissait presque jamais le capitaine Ortolan. Par contre, à présent, à la guerre, il se rattrapait ferme. En vérité, il était infatigable. Son entrain, même parmi tant d'autres hurluberlus, devenait de jour en jour plus remarquable. Il prisait de la cocaïne, qu'on racontait aussi. Pâle et cerné, toujours agité sur ses membres, fragile, dès qu'il mettait pied à terre, il chancelait d'abord et puis il se reprenait et arpentait rageusement les sillons en quête d'une entreprise de bravoure. Il nous aurait envoyé prendre du feu à la bouche des canons d'en face. Il collaborait avec la mort. On aurait pu jurer qu'elle avait un contrat avec le capitaine Ortolan. La première partie de sa vie, je me renseignais, c'était passé dans les concours hippiques à s'y casser les côtes, quelquefois l'an. Ses jambes, à force de les briser aussi et de ne plus les faire servir à la marche, en avaient perdu leurs mollets. Il n'avançait plus, Ortolan, qu'à pas nerveux et pointu, comme sur des triques. Au sol, dans la houppelande démesurée voûtée sous la pluie, on l'aurait pris pour le fantôme arrière d'un cheval de course. Notons qu'au début de la monstrueuse entreprise, c'est-à-dire au mois d'août, jusqu'en septembre même, certaines heures des journées entières, quelquefois, des bouts de route, des coins de bois demeuraient favorables aux condamnés. On pouvait s'y laisser approcher par l'illusion d'être à peu près tranquille et croûter par exemple une boîte de conserve avec son pain jusqu'au bout sans être trop lanciné par le pressentiment que ce serait la dernière. Mais à partir d'octobre, ce fut bien fini, ces petites accalmies. La grêle devint de plus en plus épaisse, plus dense, mieux truffée, farcie d'obus et de balles. Bientôt, on serait en plein orage, et ce qu'on cherchait à ne pas voir serait alors en plein devant soi, et on ne pourrait plus voir qu'elle, sa propre mort. La nuit, dont on avait eu si peur dans les premiers temps, en devenait par comparaison assez douce. Nous finissions par l'attendre, la désirer, la nuit. On nous tirait dessus moins facilement la nuit que le jour, et il n'y avait plus que cette différence qui comptait. C'est difficile d'arriver à l'essentiel, même en ce qui concerne la guerre. La fantaisie résiste longtemps. Les chats, trop menacés par le feu, finissent tout de même par aller se jeter dans l'eau. On dénichait dans la nuit, çà et là, des quarts d'heure qui ressemblaient assez à l'adorable temps de paix. À ces temps devenus incroyables, où tout était bénin, où rien au fond ne tirait à conséquence, où s'accomplissaient tant d'autres choses, toutes devenues extraordinairement, merveilleusement agréables. Un velours vivant, ce temps de paix. Mais bientôt les nuits, elles aussi, à leur tour, furent traquées sans merci. Il fallut presque toujours la nuit faire encore travailler sa fatigue, souffrir un petit supplément, rien que pour manger, pour éprouver le petit rabiot de sommeil dans le noir. Elle arrivait aux lignes d'avant-garde, la nourriture honteusement rampante et lourde, en longs cortèges boiteux de carrioles précaires, gonflées de viande, de prisonniers, de blessés, d'avoine, de riz et de gendarmes et de pinards aussi, en bonbonne le pinard qui rappelle si bien la gaudriole, cahotante et pansue. À pied, les traînards derrière la forge et le pain étaient prisonniers à nous, dès lors aussi en menottes, condamnés à ceci, à cela, mêlés, attachés par les poignets à l'étrier des gendarmes, certains à fusiller de main, pas plus tristes que les autres. Ils mangeaient aussi cela, leur ration de ce thon si difficile à digérer. Ils n'en auraient pas le temps. En attendant que le convoi reparte sur le rebord de la route, et le même dernier pain avec un civil enchaîné à eux qu'on disait être un espion, et qui n'en savait rien. Nous non plus. La torture du régiment continuait alors sous la forme nocturne, à tâtons dans les ruelles bossues du village sans lumière et sans visage, à plier sous des sacs plus lourds que des hommes, d'une grange inconnue vers l'autre, engueulés, menacés de l'une à l'autre, hagards, sans l'espoir décidément de finir autrement que dans la menace, le purin et le dégoût d'avoir été torturés, dupés jusqu'au sang par une horde de fous vicieux devenus incapables soudain d'autre chose, autant qu'ils étaient que de tuer, et d'être étripé sans savoir pourquoi. Vautrés à terre, entre deux fumiers, à coups de gueule, à coups de botte, on se trouvait bientôt relevé par la gradaille et relancé encore un coup vers d'autres chargements du convoi, encore. Le village en suintait de nourriture et d'escouade dans la nuit bouffie de graisse, de pommes, d'avoine, de sucre, qu'il fallait coltiner et bazarder en route au hasard des escouades. Il amenait de tout le convoi, sauf la fuite. Lasse. La corvée s'abattait autour de la carriole et survenait le fourrier alors avec son fanal au-dessus de ses larves. Ce singe à deux mentons qui devait dans n'importe quel chaos découvrir des abreuvoirs. Aux chevaux de boire, mais j'en ai vu, moi, quatre des hommes, derrière compris, croupiers dedans la pleine eau, évanouis de sommeil jusqu'au cou. Après l'abreuvoir, il fallait encore la retrouver, la ferme et la ruelle par où on était venu et où on croyait bien avoir laissé l'escouade. Si on ne retrouvait rien, on était quitte pour s'écrouler une fois de plus le long d'un mur pendant une seule heure, s'il en restait encore une à roupiller. Dans ce métier d'être tué, faut pas être difficile. Faut faire comme si la vie continuait, et c'est ça le plus dur. Ce mensonge. Et ils repartaient vers l'arrière, les fourgons, fuyant l'aube, Le convoi reprenait sa route en crissant de toutes ses roues tordues. Il s'en allait avec mon vœu qu'il serait surpris, mis en pièces, brûlé enfin au cours de cette journée même, comme on voit dans les gravures militaires. Pillé le convoi, à jamais, avec tout son équipage de gorilles, gendarmes, de fer à chevaux et de rengagés à lanterne, et tout ce qu'il contenait de corvées et de lentilles encore et d'autres farines qu'on ne pouvait jamais faire cuire et qu'on ne le reverrait plus jamais. Car crever pour crever de fatigue ou d'autre chose, la plus douloureuse façon est encore d'y parvenir en coltinant des sacs pour remplir la nuit avec. Le jour où on les aurait ainsi bousillés jusqu'aux essieux, ces salauds-là au moins nous foutraient-ils la paix, pensais-je. Et même si ça ne serait rien que pendant une nuit tout entière, on pourrait dormir au moins une fois tout entier, corps et âme. Ce ravitaillement, un cauchemar en surcroît, petit monstre tracassier sur le gros de la guerre. Brute devant, à côté et derrière. Ils en avaient mis partout. Condamné à mort, différé, on ne sortait plus de l'envie de roupiller énorme, et tout devenait souffrance en plus d'elle, le temps et l'effort de bouffer. Un bout de ruisseau, un pan de mur par là, qu'on croyait avoir reconnu. On cédait des odeurs pour retrouver la ferme de l'escouade, redevenue chien dans la nuit de guerre des villages abandonnés. Ce qui guide encore le mieux, c'est l'odeur de la merde. Le juteux du ravitaillement, gardien des haines du régiment, pour l'instant maître du monde. Celui qui parle de l'avenir est un coquin, c'est l'actuel qui nous compte. Invoquer sa postérité, c'est faire un discours aux asticots. Dans la nuit du village de guerre, l'adjudant gardait les animaux humains pour les grands abattoirs qui venaient d'ouvrir. Il est le roi, l'adjudant, le roi de la mort. Adjudant Crétel, parfaitement. On ne fait pas plus puissant. Il n'y a d'aussi puissant que lui qu'un adjudant des autres en face. Rien ne restait du village de vivants que des chats effrayés. Le mobilier bien cassé d'abord passait à faire du feu pour la cuistance, chaises, fauteuils, buffets, du plus léger au plus lourd. Et tout ce qui pouvait se mettre sur le dos, ils l'emmenaient avec eux, mes camarades, des peignes, des petites lampes, des tasses, des petites choses futiles, et même des couronnes de mariée, tout y passait, comme si on avait encore eu à vivre pour des années. Ils volaient pour se distraire, pour avoir l'air d'en avoir encore pour longtemps, des envies de toujours. Le canon pour eux, c'était rien que du bruit. C'est à cause de ça que les guerres peuvent durer. Même ceux qui la font, en train de la faire, ne l'imaginent pas. La balle dans le ventre, ils auraient continué à ramasser de vieilles sandales sur la route, qui pouvaient encore servir. Ainsi le mouton sur le flanc dans le pré agonise et broute encore. La plupart des gens ne meurent qu'au dernier moment. D'autres commencent et s'y prennent 20 ans d'avance et parfois davantage. Ce sont les malheureux de la terre. Je n'étais point très sage pour ma part, mais devenu assez pratique cependant pour être lâche définitivement. Sans doute donnais-je à cause de cette résolution l'impression d'un grand calme. Toujours est-il que j'inspirais, tel que j'étais, une paradoxale confiance à notre capitaine, Ortolan lui-même, qui résolut pour cette nuit-là de me confier une mission délicate. Il s'agissait, m'expliqua-t-il, en confidence, de me rendre au trot avant le jour, à Noirceur-sur-la-Lys, ville de Tisserand, située à 14 kilomètres du village où nous étions campés. Je devais m'assurer, dans la place même, de la présence de l'ennemi. À ce sujet, depuis le matin, les envoyés n'arrivaient qu'à se contredire. Le général des entrailles en était impatient. À l'occasion de cette reconnaissance, on me permit de choisir un cheval parmi les moins purulents du peloton. Depuis longtemps, je n'avais pas été seul. Il me sembla du coup partir en voyage. Mais la délivrance était fictive. Dès que j'eus pris la route à cause de la fatigue, je parvins mal à m'imaginer, quoi que je fisse, mon propre meurtre, avec assez de précision et de détails. J'avançais d'arbre en arbre, dans mon bruit de ferraille. Mon beau sabre à lui seul pour le potin valait un piano. Peut-être étais-je à plaindre, mais en tout cas sûrement, j'étais grotesque. À quoi pensait donc le général des entrailles en m'expédiant ainsi dans ce silence, tout vêtu de cymbales? Pas à moi, bien assurément. Les Aztèques éventraient couramment, qu'on raconte, dans leur temple du soleil, 80 000 croyants par semaine, les offrant ainsi aux dieux des nuages, afin qu'ils leur envoient la pluie. C'est des choses qu'on a du mal à croire, avant d'aller en guerre. Mais quand on y est, tout s'explique. Et les Aztèques, et leur mépris du corps d'autrui, c'est le même que devait avoir pour mes humbles tripes notre général Céladon des entrailles, plus haut nommé, devenu par l'effet des avancements une sorte de dieu précis, lui aussi une sorte de petit soleil atrocement exigeant. Il ne me restait qu'un tout petit peu d'espoir, celui d'être fait prisonnier. Il était mince, cet espoir, un fil dans la nuit, car les circonstances ne se prêtaient pas du tout aux politesses préliminaires. Un coup de fusil vous arrive plus vite qu'un coup de chapeau dans ces moments-là. D'ailleurs, que trouverais-je à lui dire à ce militaire hostile par principe et venu expressément pour m'assassiner de l'autre bout de l'Europe? S'il hésitait une seconde, qui me suffirait, que lui dirais-je? Que serait-il d'abord en réalité? Quelque employé de magasin? Un rengagé professionnel, un fossoyeur peut-être, dans le civil, un cuisinier. Les chevaux ont bien de la chance, eux, car s'ils subissent aussi la guerre comme nous, on ne leur demande pas d'y souscrire, d'avoir l'air d'y croire. Malheureux, mais libres, les chevaux. L'enthousiasme, hélas, c'est rien que pour nous, ce putain. Nous avons terminé pour ce soir donc la lecture de ces extraits du Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline et des aventures de Bardambu, qui continueront dans la prochaine lecture. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.